Chapitre 1.14 Discours à la fête de l'unité chez Mademoiselle Jack et Eric. Vendredi 22 septembre 1911. C'est un jour froid et triste, mais comme j'avais envie de vous voir, je suis venu. Pour un homme qui a de l'amour, l'effort est un repos. Il parcourra n'importe quelle distance pour rendre visite à ses amis. Rendons grâce à Dieu, car je vous vois spirituel et reposé. Je vous transmets ce message de Dieu. Tournez-vous vers lui. Louange à Dieu, soyez près de lui. Les choses sans valeur de ce monde ne vous ont pas détourné de la recherche du monde de l'esprit. Quand vous êtes en harmonie avec le monde de l'esprit, vous ne portez pas attention aux choses qui périssent. Votre désir est pour ce qui ne meurt jamais, et le royaume s'ouvre devant vous. J'espère que l'enseignement de Dieu se répandra à travers le monde et fera que tous soient unis. Au temps de Jésus-Christ, il y eut, d'est en ouest, un déversement de lumière qui rassembla les hommes sous la bannière céleste et les illumina de la pénétration divine. Les contrées de l'ouest ont été éclairées par la lumière du Christ. Je prie vivement qu'en cet âge avancé, la lumière illumine à ce point le monde, que tous se rassemblent sous la bannière de l'unité et reçoivent une éducation spirituelle. Alors ces problèmes qui sont la cause de différends parmi les peuples de la terre disparaîtront, car en vérité ils n'ont pas lieu d'être. Vous êtes tous les vagues d'une même mer, les miroirs d'une même source lumineuse. En ces jours, les peuples d'Europe sont en paix. L'éducation s'est largement répandue. La lumière de la liberté est la lumière de l'Ouest. Et l'intention des gouvernements est de travailler pour la vérité et la justice dans les pays occidentaux. Mais la lumière de la spiritualité commence toujours par briller à l'Est. En cet âge, cette lumière s'est estompée. La religion est devenue une question de forme et de cérémonie, et l'aspiration à l'amour de Dieu s'est perdue. En ce temps de grande obscurité spirituelle, une lumière est apparue à l'Est. Ainsi, une fois de plus, la lumière des enseignements de Dieu est venue à vous. De la même façon que l'éducation et le progrès se répandent d'ouest en est, le feu spirituel se propage d'est en ouest. J'espère que les peuples de l'ouest seront éclairés par la lumière de Dieu, que le royaume viendra à eux, qu'ils trouveront la vie éternelle, que l'Esprit de Dieu se propagera tel un feu parmi eux, qu'ils seront baptisés de l'eau de la vie et qu'ils trouveront une nouvelle naissance. Tel est mon désir. J'espère que par sa volonté, Dieu vous l'accordera et vous rendra heureux. De la même manière que vous bénéficiez de l'éducation et du progrès matériel, puisse la lumière de Dieu vous être donnée. Que Dieu vous garde tous en sécurité. Partie 2. Note de conversation. Chapitre 2.1. L'arrivée à Londres. Lundi 4 septembre 1911. Le soir de son arrivée à Londres, le lundi 4 septembre 1911, Abdu'l-Bahá déclara « Le ciel a béni ce jour. Il était dit que Londres serait un lieu de grande proclamation pour la foi. J'étais fatigué quand je suis monté à bord du bateau à vapeur, mais quand j'arrivais à Londres et que je contemplais les visages des amis, la fatigue me quitta. Votre grand amour me rafraîchit. Je suis très heureux avec les amis anglais. Le sentiment qui existait entre l'Est et l'Ouest est en train de changer à la lumière de l'enseignement de Baha'u'llah. Il était de coutume lorsqu'un occidental buvait dans la coupe d'un oriental que la coupe soit considérée comme souillée et soit brisée. Maintenant, quand un Bahaï occidental dîne avec un Bahaï oriental, les couverts et les assiettes utilisés sont conservés et révérés en sa mémoire. Abdu'l-Bahá donna cet exemple historique d'amour fraternel et merveilleux. Un jour, des soldats vinrent dans la maison d'un Bahaï et, munis d'un mandat d'arrêt, exigèrent que l'un des invités soit livré pour être exécuté. L'hôte prit la place de son invité et mourut. Chapitre 2.2 Londres. L'attraction de votre amour m'a conduit jusqu'à ce pays. Mon espoir est que la lumière divine puisse briller ici et que l'étoile céleste de Baha'u'llah puisse vous fortifier, afin que vous soyez la cause de l'unicité de l'humanité, que vous aidiez à faire disparaître l'obscurité créée par la superstition et les préjugés, et que vous unissiez toutes les croyances et toutes les nations. C'est un siècle éclatant. Les yeux sont maintenant ouverts à la beauté de l'unicité de l'humanité, de l'amour et de la fraternité. L'obscurité de la répression disparaîtra et la lumière de l'unité brillera. Nous ne pouvons apporter l'amour et l'unité simplement en parlant. La connaissance n'est pas suffisante. La richesse, la science, l'éducation sont de bonnes choses, nous le savons. Mais nous devons aussi travailler et étudier pour porter à maturité le fruit de la connaissance. La connaissance est le premier pas, la décision le second pas. L'action, c'est-à-dire l'accomplissement, est le troisième pas. Pour construire un bâtiment, on doit avant toute chose dresser un plan. Ensuite, on doit avoir les moyens, l'argent. Et enfin, on peut construire. Qu'une association pour l'unité se forme, c'est bien. Mais les réunions et les discussions ne sont pas suffisantes. En Égypte, ces réunions ont lieu, mais il n'y a que des paroles et point de résultats. Ces réunions à Londres sont bonnes, la connaissance et l'intention sont bonnes, mais comment peut-il y avoir un résultat sans action? Aujourd'hui, la force qui conduit à l'unité est l'Esprit Saint de Baha'u'llah. Il manifesta cet esprit d'unité. Baha'u'llah permet de rassembler l'Est et l'Ouest. Revenez en arrière, recherchez dans l'histoire, vous ne trouverez point de précédent. Chapitre 2.3 Les différents. Dieu a créé le monde d'un seul tenant. Les frontières ont été tracées par l'homme. Dieu n'a pas divisé la terre, mais chaque homme possède sa maison et sa prairie. Les chevaux et les chiens ne divisent pas les champs en plusieurs parties. C'est pour cela que Baha'u'llah a dit « Que l'homme ne se fasse pas gloire d'aimer son pays, mais qu'il se glorifie plutôt d'aimer ses semblables. » Voir 6e Ishraq, tablette des splendeurs, Ishraqat, tablette de Baha'u'llah, maison d'édition Bahai, Bruxelles, 1994. Tous sont d'une seule famille, d'une seule race. Tous sont des êtres humains. Les différends concernant le partage de la terre ne devraient pas être cause de division parmi les hommes. Une des grandes raisons de division est la couleur. Regardez comme ce préjugé est puissant en Amérique, par exemple. Voyez comme ils se haïssent. Les animaux ne se querellent pas à cause de leur couleur. Il est sûr que l'homme qui a un rang tellement plus élevé dans la création ne devrait pas s'abaisser en dessous des animaux. Pensez à ceci. Quelle ignorance! Les colombes blanches ne se querellent pas avec les colombes bleues à cause de leur couleur, mais les hommes blancs se battent contre les hommes de couleur. Ce préjugé racial est le pire de tous. L'Ancien Testament dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dans le Coran, il est dit « Il n'y a aucune différence dans la création de Dieu ». Pensez bien, Dieu les a tous créés. Il prend soin de tous, et tous sont sous sa protection. La politique de Dieu est meilleure que la nôtre. Nous ne sommes pas aussi sages que Dieu. Chapitre 2.4 La religion. Pour la plupart des hommes qui n'ont pas entendu le message de cet enseignement, la religion apparaît comme une forme extérieure, un semblant, un simple sceau de respectabilité. Certains prêtres exercent ce saint ministère uniquement pour gagner leur vie. Ils ne croient pas eux-mêmes dans la religion qu'ils font semblant d'enseigner. Est-ce que ces hommes donneraient leur vie pour leur foi? Demandez à un tel chrétien de renier le Christ dans le but de sauver sa vie, et il le fera. Demandez à un bailli de renier n'importe lequel des grands prophètes, de renier sa foi, ou de renier Moïse, Muhammad ou le Christ, et il répondra « plutôt mourir ». Ainsi, un bailli d'origine musulmane est un meilleur chrétien que bon nombre de soi-disant chrétiens. Un bahaï ne renie aucune religion. Il accepte la vérité dans chacune et mourrait pour la défendre. Il aime tous les hommes comme ses frères, quelle que soit leur classe, race, nationalité, croyance ou couleur, qu'ils soient bons ou mauvais, riches ou pauvres, beaux ou laids. Il ne commet aucune violence. S'il est frappé, il ne rend pas le coup. Il ne parle pas en mal, suivant l'exemple du Seigneur Baha'u'llah. Pour se garder de toute intempérance, il ne boit ni vin ni spiritueux. Baha'u'llah a dit que ce n'est pas bon pour un homme saint de prendre ce qui détruira sa santé et son jugement. La religion de Dieu a deux aspects dans ce monde, l'aspect spirituel, le réel, et l'aspect formel, l'apparent. Le côté formel change de même que l'homme change d'âge en âge. Le côté spirituel, qui est la vérité, ne change jamais. Les prophètes et les manifestations de Dieu apportent toujours le même enseignement. Au début, les hommes s'accrochent à la vérité, mais après un certain temps, ils la défigurent. La vérité est dénaturée par les formes extérieures conçues par l'homme et les lois matérielles. Le voile de la matière et de l'attachement au bien de ce monde cache la réalité de la vérité. Baha'u'llah délivre le même message aux hommes que celui apporté par Moïse et Jésus. À chaque fois que Dieu nous envoie une grande manifestation, il nous est donné une nouvelle vie. Mais la vérité que chaque manifestation apporte est la même. La vérité ne change jamais, mais c'est la vision de l'homme qui change. Elle est ternie et rendue confuse par la complexité des formes extérieures. La vérité est facile à comprendre, bien que les formes extérieures à travers lesquelles elle est exprimée désorientent l'intelligence. Au fur et à mesure que les hommes grandissent, ils découvrent la futilité des formes qu'ils ont inventées et ils les méprisent. Ainsi, beaucoup quittent les églises parce que souvent ces dernières mettent uniquement l'accent sur la forme extérieure. Chapitre 2.5 Discours à une assemblée de théosophes. Londres, septembre 1911. Ces jours sont merveilleux. Nous voyons un invité oriental reçu avec amour et courtoisie en Occident. J'ai été attiré ici, malgré la fatigue, par le magnétisme de votre amour et de votre sympathie. Quelques années plus tôt, un ambassadeur avait été envoyé de Perse à Londres, où il resta 5 ans. Il s'appelait Abdul Hassan Khan. Quand il revint en Perse, on lui demanda de raconter comment étaient les Anglais. Il répondit « Je ne connais pas les Anglais. Je n'ai rencontré que des gens de la cour pendant les années où j'étais à Londres. » Cet homme était un grand homme en Perse, et il fut envoyé par les princes en Angleterre. Et cependant, il ne connaissait pas les Anglais, bien qu'il ait vécu parmi eux pendant 5 ans. Aujourd'hui, moi qui fus longtemps prisonnier, je viens en Angleterre pour la première fois. Et bien que ma visite soit si courte, j'ai déjà rencontré beaucoup d'amis bien chers, et je peux dire que je connais ces gens. Ceux que j'ai rencontrés sont vraiment des âmes travaillant pour la paix et l'unité. Pensez à la différence qu'il y a entre l'époque dans laquelle nous vivons maintenant et celle d'il y a 70 ans. Pensez au progrès, le progrès vers l'unité et la paix. C'est la volonté de Dieu que les différends entre les nations disparaissent. Ceux qui aident la cause de l'unité sont en train de faire le travail de Dieu. L'unité est le bienfait de Dieu pour ce siècle lumineux. Louange soit à Dieu. Il y a aujourd'hui beaucoup d'associations et de réunions en faveur de l'unité. L'inimitié n'est plus autant cause de séparation que ce qu'elle était. Maintenant, la cause de la désunion est principalement le préjugé. Par exemple, jadis, quand les Européens visitaient l'Orient, ils étaient considérés comme impurs et étaient haïs. Maintenant, c'est différent. Quand des gens de l'Ouest rendent visite à ceux qui à l'Est sont des disciples de la Nouvelle Lumière, nota les croyants en Baha'u'llah, c'est-à-dire les Baha'is, ils sont reçus avec amour et courtoisie. Le véritable Baha'i, déclara Abdu'l-Baha, qui tenait un petit enfant contre lui, aime les enfants, car Jésus a dit qu'ils sont du royaume des cieux. Un cœur simple et pur est proche de Dieu. Un enfant n'a aucune ambition matérielle. Chapitre 2.6 Les préjugés. Le congrès universel sur les races fut une bonne chose, car il avait pour objectif la promotion et le progrès de l'unité parmi les nations et une meilleure compréhension internationale. L'objectif était bon. Les causes de conflits entre différentes nations sont toujours dues à l'une des catégories suivantes de préjugés, raciaux, linguistiques, théologiques, personnels, et des préjugés de coutumes et de traditions. Cela requiert une force active universelle pour surmonter ces différences. Une petite maladie nécessite un petit remède, mais une maladie qui pénètre entièrement le corps nécessite un remède très fort. Une petite lampe peut éclairer une chambre, une plus grande pourrait éclairer une maison, une plus grande encore pourrait briller sur toute une ville, mais il faut le soleil pour éclairer le monde entier. Les différences de langue sont cause de désunion entre les nations. Il faut une langue universelle. La diversité de croyances est aussi une cause de division. Le véritable fondement de toutes les croyances doit être établi, les différences externes abolies. Il faut une unicité de foi. Mettre un terme à toutes ces différences est une tâche très dure. Le monde entier est malade et nécessite le pouvoir du grand guérisseur. Ces réunions nous enseignent que l'unité est bonne et que la répression, l'esclavage sous le joug de la tradition et du préjugé, est une cause de désunion. Savoir cela n'est pas suffisant. Toutes les connaissances sont bonnes, mais elles ne peuvent porter de fruits sans action. Il est bien de savoir que les richesses sont bonnes, mais cette connaissance ne rendra pas l'homme riche. Il doit travailler, il doit mettre son savoir en pratique. Nous espérons que les hommes ont appris et compris que l'unité est bonne. Et nous espérons aussi qu'ils ne se contenteront pas de le savoir. Ne dites pas seulement que l'unité, l'amour et la fraternité sont bons. Vous devez travailler à leur réalisation. Le tsar de Russie suggéra d'organiser la conférence sur la paix de La Haye et proposa de réduire l'armement de toutes les nations. À cette conférence, il fut prouvé que la paix était bénéfique pour tous les pays et que la guerre détruisait le commerce, etc. Les propos du tsar étaient admirables. Pourtant, après la conférence, il fut le premier à déclarer la guerre contre le Japon. Nota, le secrétaire d'État russe Bezobrazov refusera d'exécuter l'accord russo-japonais de 1902 prévoyant l'évacuation de la Mandchourie par les Russes et de la Corée du Nord par les Japonais. La guerre russo-japonaise commencera réellement en février 1904 par une attaque surprise des Japonais sur Port Arthur. Grâce à la médiation américaine menée par le président Theodore Roosevelt, la Russie cédera, par le traité de Portsmouth, Dao 1905, Port Arthur et partie de Sakhaline. Cette victoire des Asiatiques sur les Européens marquera le début de la fin de la suprématie blanche en Asie. Chapitre sur les grands pays, section sur l'URSS, Quid, édition Robert Laffont et Société des encyclopédies Quid, Paris, 1984. Nota, la conférence de la paix à La Haye fut la première dotée d'un arbitrage international. Elle fut ouverte en mai 1899. 26 États furent représentés à cette conférence de la paix, mais les résultats ne furent pas à la hauteur des espérances entretenues dans l'opinion publique européenne. La proposition russe de porter un coup d'arrêt à l'armement fut rejetée comme irréaliste et idéaliste. On se contentera de recommander une limitation de l'armement sans aucun caractère d'obligation. La délégation allemande s'opposera à toute atteinte à la souveraineté absolue des nations et seule la pression de la Russie et de l'Angleterre permettront la création d'une cour internationale d'arbitrage. Les participants se mettront d'accord, cependant, pour humaniser la guerre et s'accorderont sur les droits des combattants et des prisonniers de guerre ainsi que sur une codification des armes employées. Serge Cosseron et Philippe Favergeon, L'Europe de 1815 à nos jours, La Manufacture, Besançon, 1991. La connaissance n'est pas suffisante. Par amour de Dieu, nous espérons la mettre en pratique. Une force spirituelle universelle est nécessaire pour cela. Les réunions sont bonnes pour engendrer une force spirituelle. Il est bon de savoir qu'il est possible d'atteindre un état de perfection, mais marcher de l'avant sur ce sentier est mieux. Nous savons qu'il est bon d'aider les pauvres et d'être miséricordieux et que cela plaît à Dieu, mais la connaissance en elle-même ne nourrit pas l'homme affamé. Et le pauvre ne peut être réchauffé par la connaissance ou les belles paroles lors d'un hiver rigoureux. Nous devons apporter une aide concrète empreinte de tendre bonté. Et que dire du Congrès sur la paix? Cela ressemble à un groupe d'ivrognes rassemblés pour protester contre la consommation d'alcool. Ils disent que boire est horrible et ils quittent la salle sur le champ pour aller boire de nouveau. Chapitre 2.7 La théosophie. Quand on demanda à Abdu'l-Bahá s'il reconnaissait le bien que la société théosophique avait fait, il répondit « Je le reconnais, j'en pense beaucoup de bien. Je sais que leur désir est de servir l'humanité. J'ai remercié cette noble association au nom de tous les bahaïs et personnellement. J'espère que par l'aide de Dieu, ses amis réussiront à apporter l'amour et l'unité. C'est un grand travail et cela nécessite l'effort de tous les serviteurs de Dieu. » Chapitre 2.8 La paix. Durant les 6000 dernières années, les nations se sont haïes. Il est maintenant temps d'y mettre fin. La guerre doit cesser. Soyons unis, aimons-nous les uns les autres et attendons le résultat. Nous savons que les effets de la guerre sont mauvais. Essayons donc la paix, en guise d'expérience. Et si les résultats de la paix sont mauvais, alors nous pourrons toujours voir s'il est préférable de revenir au vieil état de guerre. Faisons-en de toute façon l'expérience. Si nous voyons que l'unité apporte la lumière, nous continuerons. Pendant 6000 ans, nous avons marché à gauche du sentier. Essayons de marcher à droite maintenant. Nous avons vécu de nombreux siècles dans l'obscurité. Avançons vers la lumière. Question. On fit remarquer que la théosophie enseigne que la vérité est la même dans toutes les religions. Est-ce que la tâche consistant à unifier toutes les religions recueille la sympathie de Abdu'l-Bahá? Réponse. Certainement. Question. Abdu'l-Bahá peut-il suggérer les grandes lignes qu'il serait bon de suivre? Réponse. La recherche de la vérité. Chercher les réalités dans toutes les religions. Mettre de côté toutes les superstitions. Beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la réalité de toutes les religions. Chapitre 2.9 Les manifestations divines. Question. Quel est l'enseignement de Abdu'l-Bahá concernant les différentes manifestations divines? Réponse. La réalité de toutes est unique. La vérité est une. Les religions sont comme les branches d'un seul arbre. Une branche est haute, une autre est basse, et une encore est au centre. Cependant, toutes tirent leur vie de la même souche. Une branche porte abondamment des fruits et d'autres sont moins chargées. Tous les prophètes sont des lumières. Ils diffèrent seulement en degrés. Ils brillent comme des corps célestes étincelants. Chacun a son lieu déterminé et son temps d'ascension. Certains sont comme des lampes, d'autres comme la lune, d'autres encore comme des étoiles éloignées. Et quelques-uns sont comme le soleil, brillant d'une extrémité à l'autre de la terre. Tous ont la même lumière à transmettre, cependant ils sont différents en degrés. Chapitre 2.10 Le bouddhisme. Quelques personnes firent référence à l'enseignement de Bouddha. Abdu'l-Bahá dit « Le véritable enseignement de Bouddha est le même que l'enseignement de Jésus-Christ. Les enseignements de tous les prophètes sont identiques dans leur essence. De nos jours, les hommes ont altéré l'enseignement. Si vous regardez la pratique actuelle de la religion bouddhiste, vous verrez qu'il reste très peu de sa vérité d'origine. Beaucoup adorent des idoles, bien que leur enseignement l'interdise. Bouddha avait des disciples, et il désirait les envoyer à travers le monde pour enseigner, donc leur posa-t-il des questions pour voir s'ils étaient préparés pour tout ce qu'il attendait d'eux. Quand vous irez à l'est et à l'ouest, et que les gens vous fermeront leurs portes et refuseront de parler avec vous, que ferez-vous ? Demanda Bouddha. Les disciples répondirent. Nous serons très reconnaissants qu'ils ne nous fassent pas de mal. Et s'ils vous font du mal et se moquent de vous, que ferez-vous? Nous serons très reconnaissants qu'ils ne nous infligent pas un traitement pire encore. S'ils vous jettent en prison, nous serons reconnaissants qu'ils ne nous tuent pas. Et s'ils en venaient à vous tuer? Demanda le maître pour la dernière fois. Nous serons encore reconnaissants, car ils auront fait de nous des martyrs. Quel destin plus glorieux y a-t-il que de mourir pour la gloire de Dieu? Répondirent les disciples. Et Bouddha dit « C'est bien ». L'enseignement de Bouddha était comme un jeune et bel enfant, et maintenant il est devenu comme un homme vieux et décrépite. Comme le vieil homme, il ne peut pas voir, il ne peut pas entendre, il ne peut pas se souvenir. Pourquoi revenir si loin en arrière? Considérez les lois de l'Ancien Testament. Les Juifs ne suivent pas l'exemple de Moïse et n'observent pas ses commandements. Ainsi en est-il pour beaucoup d'autres religions. Comment pouvons-nous avoir la capacité de suivre le droit chemin? C'est en mettant l'enseignement en pratique que ce pouvoir nous sera donné. Vous connaissez le chemin à suivre. Vous ne pouvez pas vous tromper, car il y a une grande différence entre Dieu et le mal, entre la lumière et l'obscurité, la vérité et l'erreur, l'amour et la haine, la générosité et l'avarice, l'éducation et l'ignorance, la foi en Dieu et la superstition, les lois bonnes et les lois injustes. Chapitre 2.11 La foi. Comment peut-on développer sa foi? Vous devez faire des efforts. Un enfant ne sait rien. C'est en apprenant qu'il acquiert la connaissance. Recherchez la vérité. Il y a trois catégories de foi. Premièrement, celle qui découle de la tradition et de la naissance. Par exemple, un enfant né de parents musulmans est un musulman. Cette foi traditionnelle est faible. Deuxièmement, celle qui découle de la connaissance, c'est-à-dire la foi de la compréhension. C'est une bonne foi, mais il y en a une meilleure, la foi de la pratique. C'est la vraie foi. Nous entendons parler d'une invention, nous pensons qu'elle est bonne et nous venons pour la voir. Nous entendons parler de richesse, nous la voyons. Nous travaillons durement pour l'acquérir. Cela nous rend riches et ainsi nous aidons les autres. Nous connaissons la lumière, nous la voyons. Nous nous en approchons, elle nous réchauffe et nous en réfléchissons les rayons sur les autres. C'est la vraie foi. Et ainsi nous recevons le pouvoir de devenir les enfants éternels de Dieu. Chapitre 2.12 La guérison. Abdu'l-Bahá dit « La maladie est de deux sortes, physique ou spirituelle. Prenez par exemple une coupure à la main. Si vous priez pour que la main soit guérie sans juguler le saignement, vous ne ferez pas grand-chose de bon. Un remède matériel est nécessaire. Quelquefois, quand le système nerveux est paralysé par la peur, un remède spirituel est nécessaire. La folie, incurable par d'autres moyens, peut être soignée grâce à la prière. Il arrive souvent que le chagrin rende quelqu'un malade. Il peut alors être soigné par des moyens spirituels. Chapitre 2.13 Les œuvres philanthropiques. Quelqu'un demanda si la Humanitarian Society était une bonne chose. Oui, toutes les associations, toutes les organisations travaillant pour l'amélioration de la condition humaine sont bonnes, très bonnes. Tous ceux qui travaillent pour leurs frères et sœurs ont la bénédiction de Baha'u'llah. Ils réussiront certainement. Abdu'l-Bahá dit « Cela me rend heureux de voir tous les croyants de Londres. Vous venez tous de races et de croyances différentes, et vous voici membres d'une seule famille. L'enseignement de Baha'u'llah vous enjoint à être fraternels les uns envers les autres. » Chapitre 2.14 Connaissance de Dieu et des mondes de l'au-delà par l'homme. L'essence de Dieu est incompréhensible pour l'homme. Il en est de même des mondes de l'au-delà et de leurs conditions. Il est donné à l'homme d'acquérir la connaissance, d'atteindre à une grande perfection spirituelle, de découvrir les vérités cachées et même de manifester les attributs de Dieu. Mais pourtant, l'homme ne peut pas comprendre l'essence de Dieu. Quand le cercle toujours grandissant de la connaissance humaine rencontre le monde spirituel, une manifestation de Dieu est envoyée pour réfléchir sa splendeur. Chapitre 2.15 Les manifestations divines. La manifestation divine est-elle Dieu? Oui, et cependant pas en essence. Une manifestation divine est comme un miroir réfléchissant la lumière du soleil. La lumière est la même, et pourtant le miroir n'est pas le soleil. Toutes les manifestations de Dieu apportent la même lumière. Elles diffèrent seulement en degrés, mais pas dans leur réalité intrinsèque. La vérité est une. La lumière est la même, quoique les lampes soient différentes. Nous devons regarder la lumière, pas la lampe. Si nous acceptons la lumière d'une lampe, nous devons accepter la lumière de toutes les lampes. Toutes s'accordent parce qu'elles sont toutes la même lumière. L'enseignement est toujours le même. Ce sont seulement les formes extérieures qui changent. Les manifestations de Dieu sont comme des corps célestes. Toutes ont leur lieu déterminé et leur temps d'ascension, mais la lumière qu'elles donnent est la même. Si quelqu'un souhaite chercher le soleil levant, il ne regarde pas toujours vers le même point, parce que ce point change avec les saisons. Quand quelqu'un voit le soleil monter plus loin vers le nord, il le reconnaît, quoiqu'il se soit levé en un point différent. Chapitre 2.16 Note d'une conversation avec Abdu'l-Bahá. Un homme de couleur, originaire d'Afrique du Sud, qui rendait visite à Abdu'l-Bahá, disait que même maintenant, aucun blanc ne se souciait vraiment des Noirs. Abdu'l-Bahá répondit « Comparez le temps présent et les sentiments d'aujourd'hui à l'égard des gens de couleur avec ce qu'il en était il y a 200 ou 300 ans et voyez combien cela est mieux à l'heure actuelle. En peu de temps, les relations entre les gens de couleur et les blancs se développeront davantage et peu à peu, on ne sentira plus de différence entre eux. Il y a des colombes blanches et des pigeons pourpres, mais tous deux appartiennent au genre pigeon. » Une fois, Baha'u'llah compara les gens de couleur à la pupille noire de l'œil entourée de blanc. « Dans cette pupille noire, dit-il, vous voyez le reflet de ce qui se trouve devant elle, et à travers elle brille la lumière de l'esprit. Aux yeux de Dieu, la couleur ne fait aucune différence. Il regarde le cœur des hommes. Ce que Dieu veut des hommes, c'est le cœur. Un homme noir avec un bon caractère est de loin supérieur à un homme blanc qui a un moins bon caractère. » Chapitre 2.17 Les idéaux de l'Est et de l'Ouest. L'un des organisateurs du congrès sur les races qualifia d'occidentaux les idéaux de Baha'u'llah en disant qu'ils se différenciaient de ceux des anciens prophètes qui étaient empreints d'idées et de civilisations d'Orient. Puis il demanda si Baha'u'llah avait fait une étude spéciale des écrits de l'Occident et avait fondé ses enseignements en accord avec ceux-ci. Abdu'l-Bahá rit de bon cœur et dit que les livres de Baha'u'llah, écrits et publiés 60 ans auparavant, contenaient les idéaux qui étaient maintenant devenus familiers pour l'Occident, mais qu'à leur époque, ils n'avaient pas été publiés ou pensés en Occident. Et il poursuivit « Supposons qu'un penseur occidental d'avant-garde soit venu rendre visite à Baha'u'llah pour l'enseigner, serait-il possible que le nom d'un tel grand homme et le fait de sa visite ne soient ni connus ni répertoriés ? Non. En des jours anciens, au temps du Bouddha et de Zoroastre, les civilisations d'Asie et de l'Est étaient beaucoup plus développées que celles de l'Ouest, et les idées et les pensées des Orientaux étaient beaucoup plus avancées et plus proches des pensées de Dieu que celles des Occidentaux. Mais depuis ce temps, les superstitions se sont glissées dans la religion et les idéaux de l'Est, et en raison de nombreuses causes variées, les idéaux et les caractères des Orientaux ont décliné de plus en plus pendant que les Occidentaux continuaient à lutter sans cesse pour marcher vers la lumière. En conséquence, en ces jours, la civilisation de l'Ouest a beaucoup plus évolué que celle de l'Est, et les idées et pensées des Occidentaux sont beaucoup plus proches de la pensée de Dieu que celles des Orientaux. C'est ainsi que les idéaux de Baha'u'llah ont été plus rapidement réalisés en Occident. Abdu'l-Bahá montra de plus comment Baha'u'llah avait exactement décrit dans l'un de ses livres ce qui depuis a été mis en place sous la forme d'un conseil international d'arbitrage. Abdu'l-Bahá expliqua que certaines de ses fonctions décrites par Baha'u'llah n'ont pas encore été réalisées. Il se proposa donc de nous les décrire afin que lorsqu'elles seraient définies, ce qui doit se produire dans un futur proche, nous sachions qu'elles avaient été prophétisées par Baha'u'llah. La guerre a été la plus grande calamité qui puisse s'abattre sur les nations. Car les gens occupés habituellement dans l'agriculture, l'artisanat, le commerce ou dans d'autres métiers manuels ont été arrachés de leurs diverses occupations et transformés en soldats. Il en résulta de grands gaspillages et de lourdes pertes outre la destruction et le carnage de la guerre. Baha'u'llah a dit que la Cour internationale serait chargée de régler les conflits qui s'élèveraient de temps en temps entre les nations, de définir les frontières exactes des différents pays, et de décider quel nombre de soldats et quelle quantité d'armes devraient être maintenues pour chaque nation en proportion de sa population, dans le but de préserver l'ordre intérieur. Par exemple, un pays pourrait avoir 10 000 soldats, un autre 20 000, un autre 15 000, et ainsi de suite, en proportion de la grandeur et de la population de chaque nation. De plus, si un peuple se rebellait contre la décision de la Cour et la rejetait, la Cour donnerait aux autres le pouvoir de réunir leurs forces et de faire appliquer sa décision, si nécessaire, par une action conjointe. Jusqu'à présent, nous n'avons vu se réaliser aucune de ces choses, mais nous le verrons dans le futur. Chapitre 2.18 La science et la foi. Un homme distingué posa alors une question qu'il considérait de la plus haute importance pour un mouvement religieux aspirant à être universel. Quelle position, s'il y en a une, Baha'u'llah donnait-il dans ses enseignements aux idées modernes et aux conceptions de la science? Toute la structure de la civilisation moderne est fondée sur les résultats et les connaissances obtenus à la suite de laborieuses et patientes observations de faits recueillis par les hommes de science. Dans certains cas, après des centaines d'années de recherches approfondies. Afin de rendre plus clair le sens de sa pensée, il donna l'exemple de l'éthique et des enseignements moraux des philosophes chinois. Il ne pouvait concevoir rien de mieux. Cependant, ces enseignements avaient très peu d'effet en dehors de la Chine. Pour la simple raison, jugea-t-il, qu'ils n'étaient pas fondés dans leurs principes sur les enseignements de la science. Abdu'l-Bahá répondit qu'une très grande importance était donnée à la science et à la connaissance dans les écrits de Baha'u'llah, où il est précisé qu'un homme qui éduquait les enfants des pauvres qui n'en avaient pas les moyens était considéré aux yeux de Dieu comme s'il avait éduqué le Fils de Dieu. Si une religion rejetait la science et la connaissance, cette religion était fausse. La science et la religion devaient aller de pair. Elles devaient être en réalité comme les doigts d'une seule main. Baha'u'llah avait donné également une grande importance dans ses écrits à l'art et à la pratique de professions qualifiées. Il avait affirmé que la pratique d'un art ou d'un métier dans un véritable esprit de service était identique à l'adoration de Dieu. Ensuite, un homme distingué concerné par le travail dans une institution demanda quels étaient les meilleurs moyens pour élever et éduquer les plus démunis, ignorants et avilis. Est-ce que leur éducation se ferait graduellement par l'illumination de l'esprit, ou y avait-il des méthodes spéciales qui pourraient être utilisées à cette fin? Abdu'l-Bahá répondit que la meilleure façon était de leur donner des enseignements spirituels et de les édifier. Il fit remarquer qu'il fallait montrer la plus grande amabilité et le plus grand amour envers les gens au cœur étroit, remplis de préjugés, afin d'élargir leurs perspectives et de leur faire écouter un enseignement plus tolérant. L'exemple de notre vie portait encore plus que les mots. Chapitre 2.19 Les relations avec des personnes décédées. On posa la question de savoir s'il était possible d'établir une communication avec les morts, et s'il était sage ou recommandable d'assister à des séances de table tournante ou de s'engager dans le spiritisme, etc. Le maître dit qu'il s'agit de choses matérielles, provenant du corps. Ce qui est nécessaire, c'est de s'élever au-dessus du matériel, vers les royaumes du purement spirituel. Les tables tournantes et autres activités du même type sont matérielles, avec un résultat physique et non spirituel. Mais il est possible de communiquer avec les morts à travers la condition du cœur et du caractère. Chapitre 2.20 Les superstitions sont-elles utiles? Une dame voulut savoir si certaines superstitions pouvaient être bonnes pour les gens ignorants, qui, sans elles, n'auraient peut-être aucune conviction. Abdu'l-Bahá répondit que les superstitions étaient de deux ordres, celles qui étaient nuisibles et dangereuses, et celles qui étaient inoffensives et qui produisaient quelques bons effets. Par exemple, il y avait de pauvres gens qui croyaient que les malheurs et les châtiments venaient d'un grand ange, qui, une épée à la main, frappaient ceux qui volaient et commettaient des meurtres ou des délits. Ils pensaient que les éclairs étaient les armes de cet ange et que les anges qui avaient fait du mal étaient frappés par l'éclair. Cette conviction les freinait dans leurs mauvaises actions. Les Chinois avaient pour superstition de brûler certains morceaux de papier pour éloigner les démons. Parfois, ils brûlaient ces papiers à bord de bateaux pendant leur voyage afin d'éloigner les démons. Mais en faisant cela, il mettait le feu au bateau et provoquait la perte de nombreuses vies. C'était un type de superstition dangereuse et nuisible. Chapitre 2.21 La vie après la mort. Madame S. posa quelques questions au sujet des conditions de l'existence dans l'au-delà et de la vie après la mort. Elle dit qu'ayant perdu récemment un parent très proche, elle y avait beaucoup réfléchi. Beaucoup pensaient que la réunion avec ceux qu'on avait aimés et qui étaient passés dans l'autre monde se ferait au bout d'une longue période. Elle souhaitait savoir si, immédiatement après la mort, on rejoindrait ceux qui étaient partis avant nous. Abdu'l-Bahá répondit que cela dépendrait des rangs respectifs de ces personnes. Si toutes avaient le même degré de développement, elles seraient réunies immédiatement après la mort. Ensuite, cette dame demanda comment cet état de développement pouvait être acquis. Abdu'l-Bahá répondit que c'était par un incessant effort en s'appliquant à bien faire et à acquérir des qualités spirituelles. L'intervenante fit remarquer que les opinions différaient concernant les conditions de la vie future. Quelques-uns pensaient que tous auraient exactement les mêmes perfections et vertus, que tous seraient égaux et semblables. Abdu'l-Bahá dit que, comme dans ce monde, il y aurait une variété et des degrés différents de réalisation. Une autre question fut posée. Comment serait-il possible, sans corps ni environnement matériel, de reconnaître différentes entités et caractères, alors que tous seront dans les mêmes conditions et sur le même plan d'existence? Abdu'l-Bahá dit que si plusieurs personnes regardent dans un miroir au même moment, elles peuvent s'y contempler avec leurs caractéristiques et leurs mouvements, quoiqu'elles se regardent toutes dans la glace d'un même miroir. Dans votre esprit, vous avez de multiples pensées, mais toutes sont uniques et distinctes. Vous avez peut-être également des centaines d'amis, mais quand vous vous les remémorez, vous ne les confondez pas les uns avec les autres. Chacun est unique et distinct, ayant sa propre individualité et ses propres caractéristiques. Répondant à un autre intervenant, il dit que lorsque deux personnes, un époux et une épouse par exemple, ont été complètement unies dans leur vie, leurs âmes étant comme une seule âme, alors après le décès de l'un d'eux, cette union du cœur et de l'âme demeurera sans faille. Chapitre 2.22 La relation spirituelle. Dans la soirée du 28 septembre 1911, Abdu'l-Bahá était en compagnie de nombreux invités. Il dit que toutes les personnes présentes étaient comme des sœurs. Les relations du corps peuvent cesser, deux sœurs peuvent être inamicales l'une envers l'autre, mais la relation spirituelle est éternelle et apporte l'amour réciproque et le service mutuel. Soyez toujours aimables envers chacun et un refuge pour ceux qui sont sans abri. Soyez des filles pour ceux qui sont plus âgés que vous. Soyez des sœurs pour ceux qui ont votre âge. Soyez des mères pour ceux qui sont plus jeunes que vous. Soyez des infirmières pour les malades, des trésors pour les pauvres, et donnez la nourriture céleste aux affamés. Un docteur persan de Qazvin dit que si l'Est et l'Ouest étaient devenus tellement unis, c'était une grande œuvre de Dieu, et que nous devrions toujours rendre grâce à Dieu que la cause Bahaï ait produit une si grande harmonie et une si grande unité entre nous. Le résultat de cette visite de Abdu'l-Bahá à l'Ouest sera très grand. Chapitre 2.23 Un mariage Bahaï. Une note bien orientale fut donnée vers la fin de la visite de Abdu'l-Bahá à Londres, avec le mariage d'un jeune couple persan qui avait souhaité sa présence à la cérémonie. La mariée était arrivée de Bagdad, accompagnée de son oncle, pour rejoindre ici son fiancé et célébrer le mariage avant le départ de Abdu'l-Bahá. Le père et le grand-père de la mariée avaient été des disciples de Baha'u'llah à l'époque de son bannissement. Nous hésitons à modifier la description de la cérémonie faite par le marié et nous la publions donc avec ses propres mots, à la fois simples et beaux. Cela nous permettra de montrer un aspect non encore abordé ailleurs et sans lequel aucun aperçu sur la venue de Abdu'l-Bahá ne serait complet. Nous voulons parler de l'attitude de déférence que les Orientaux venus voir Abdu'l-Bahá témoignèrent à l'égard de leur grand maître. Ils sont invariablement debout, la tête inclinée, chaque fois qu'il entre dans une pièce. Voici ce qu'écrit Mirza Daoud. Le matin du dimanche 1er octobre de l'an de grâce 1911, équivalent au 9e Tichy 5972, ère hébraïque, Regina Nur Mahal Hanum et Mirza Yuhanna Daoud furent admis en la sainte présence de Abdu'l-Bahá, puisse ma vie lui être offerte en sacrifice. Après nous avoir reçus, Abdu'l-Bahá dit « Vous êtes les bienvenus, et cela me rend heureux de vous voir ici à Londres. » Me regardant, il déclara « Je n'ai jamais célébré un mariage auparavant, excepté celui de mes propres filles. Mais comme je vous aime beaucoup, et puisque vous avez rendu un grand service au royaume d'Aba, à la fois dans ce pays et dans d'autres contrées, je célébrerai votre cérémonie de mariage aujourd'hui. C'est mon espoir que vous continuiez tous deux dans le sentier béni du service. » Alors, pour commencer, Abdu'l-Bahá fit venir Nur Mahal Khanum à ses côtés et lui dit « Aimez-vous Mirza Yohanna Dawood de tout votre cœur et de toute votre âme ?» Elle répondit « Oui, je l'aime. » Puis, Abdu'l-Bahá m'appela près de lui et me posa la même question « Aimez-vous Nur Mahal Khanum de tout votre cœur et de toute votre âme ?» Je répondis « Oui, je l'aime. » Nous retournâmes ensemble à notre place. Abdu'l-Bahá prit la main droite de la mariée et la mit dans celle du marié et nous demanda de prononcer après lui « Nous faisons tout pour plaire à Dieu ». Nota, il s'agit de la traduction mot à mot du texte anglais rapporté dans l'édition originale. Mais l'expression habituelle employée en français est « En vérité, nous dépendons de la volonté de Dieu ». Nous nous assîmes tous et Abdu'l-Bahá continua. Le mariage est une sainte institution qui est très encouragée dans cette cause bénie. Maintenant, vous n'êtes plus deux, mais vous êtes un. Le souhait de Baha'u'llah est que tous les hommes soient d'un seul esprit et se considèrent d'un seul grand foyer, afin que l'esprit de l'humanité ne soit pas divisé. C'est mon souhait et mon espoir que vous soyez bénis durant votre vie. Puisse Dieu vous aider à rendre de grands services au royaume d'Aba, et puissiez-vous devenir un moyen pour son avancement. Puisse la joie croître en vous au cours des années, et puissiez-vous devenir des arbres florissants portant de délicieux fruits parfumés qui sont des bénédictions dans le sentier du service. Quand nous sortîmes, tous les amis réunis, venus de Perse ou de Londres, nous félicitèrent pour le grand honneur qui nous avait été fait et nous fûmes invités à dîner par l'aimable hôtesse. Peu après, nous nous rassemblâmes avec lui autour de la table. Durant le repas, l'un des amis demanda à Abdu'l-Bahá s'il appréciait son séjour à Londres et ce qu'il pensait des Anglais. Je fis office d'interprète. Abdu'l-Bahá répondit « J'ai beaucoup apprécié Londres et les visages rayonnants des amis ont réjoui mon cœur. J'ai été attiré ici par leur unité et leur amour. Dans le monde de l'existence, il n'y a pas d'attraction plus puissante que l'attraction de l'amour. Ces quelques jours passeront, mais les amis de Dieu se souviendront de leur portée en tout temps et en tout lieu. Il y a des nations vivantes et des nations mortes. La Syrie perdit sa civilisation à cause de son esprit léthargique. La nation anglaise est une nation vivante. Et quand, en ce printemps spirituel, la vérité divine apparaîtra avec une vitalité renouvelée, les Anglais seront comme des arbres riches en fruits, et le Saint-Esprit les rendra capables de fleurir en abondance. Alors non seulement ils progresseront matériellement, mais aussi spirituellement, ce qui est beaucoup plus important et ce qui leur permettra de servir encore davantage l'humanité. » Quelqu'un demanda pourquoi les enseignements de toutes les religions sont exprimés pour une grande part sous forme de paraboles et de métaphores et non dans un langage clair pour les gens. Abdu'l-Bahá répondit « Les choses divines sont trop profondes pour être exprimées par des mots communs. Les enseignements célestes sont exprimés en paraboles dans le but d'être compris et préservés pour les âges à venir. Quand les esprits spirituels plongent profondément dans l'océan de leur sens, ils en font remonter à la surface les perles de leur signification intérieure. Il n'y a pas de plus grand plaisir que d'étudier la parole de Dieu avec un esprit spirituel. L'objet de l'enseignement de Dieu à l'homme est que l'homme puisse se connaître dans le but de comprendre la grandeur de Dieu. La parole de Dieu a pour but l'harmonie et la concorde. Si vous allez en Perse où les amis d'Aba sont nombreux, vous réaliserez tout de suite la force unifiante de l'œuvre de Dieu. Ils font de leur mieux pour renforcer ce lien d'amitié. Là-bas, des gens de différentes nationalités se rassemblent lors de réunions et chantent les tablettes divines d'un même cœur. On pourrait supposer qu'ils sont tous frères. Nous ne considérons personne comme un étranger, car Baha'u'llah a dit « Vous êtes tous les rayons d'un seul soleil, les fruits d'un seul arbre et les feuilles d'une seule branche. Nous désirons la vraie fraternité des hommes. Cela sera, et cela a déjà commencé. Louange soit à Dieu, celui qui aide, celui qui pardonne. Nota, il est écrit dans la tablette de Maqsoud, « Vous êtes les fruits d'un seul arbre, les feuilles d'une seule branche. » Tablette de Baha'u'llah, page 172, Maison d'édition Bahaï, Bruxelles, 1994. Chapitre 2.24, la visite à Bristol. Nota, compte rendu écrit par Thomas Paul. Abdu'l-Baha passa la fin de la semaine du 23 au 25 septembre à la pension de famille Clifton à Bristol. Lors du premier après-midi, pendant le trajet en voiture, il exprima un grand intérêt pour l'Angleterre rurale, s'émerveillant devant les arbres centenaires et devant la verdure éclatante des bois et des collines, tellement différente de l'Est aride. « Bien que ce soit l'automne, on dirait le printemps, » dit-il. Les maisons avec leurs lopins de terre suggérèrent à Abdu'l-Baha une citation des écrits de Baha'u'llah dans laquelle il est mentionné que chaque famille doit avoir sa maison avec un bout de terrain. Abdu'l-Baha associa la campagne à l'âme et la ville au corps de l'homme. Et il dit « Le corps sans l'âme ne peut vivre ». Puis il remarqua « Il est bon de vivre sous le ciel, au soleil et à l'air frais ». Observant une jeune femme qui montait à cheval, cheveux au vent, et quelques autres qui faisaient de la bicyclette sans être accompagnés, il dit « C'est l'âge de la femme. Elle devrait recevoir la même éducation que son frère et jouir des mêmes privilèges, car toutes les âmes sont égales devant Dieu. Le sexe, au niveau de ses besoins sur le plan physique, n'a aucun rapport avec l'esprit. En cet âge de réveil spirituel, le monde est entré dans la voie du progrès, dans l'arène du développement, où le pouvoir de l'esprit surpasse celui du corps. Bientôt l'esprit aura emprise sur le monde de l'humanité. » Dans la soirée, un message de salutation fut télégraphié aux Bahaïs de Téhéran, les informant de la présence de Abdu'l-Baha à Bristol. Il leur envoya son amour et souhaita qu'ils sachent qu'il était bien et heureux avec les amis de Clifton. C'était une réponse à un télégramme précédemment reçu de Téhéran, félicitant les gens de la pension de famille pour la future visite de Abdu'l-Baha. Plus tard, se tint une réception où 90 personnes vinrent à la rencontre de Abdu'l-Baha, qui leur parla avec une ferveur impressionnante. Abdu'l-Baha dit « Vous êtes les bienvenus. Je suis venu de loin pour vous voir. Je loue Dieu qu'après 40 années d'attente, il me soit enfin permis de venir apporter mon message. Voici une assemblée pleine de spiritualité. Ceux qui sont présents ont tourné leur cœur vers Dieu. Ils cherchent et attendent de bonnes nouvelles. Nous nous sommes rassemblés ici par le pouvoir de l'Esprit. Aussi nos cœurs exultent-ils dans une action de grâce. Envoie-nous ta lumière et ta vérité, ô Dieu. Laisse-les nous guider vers les montagnes saintes. Puissions-nous être rafraîchis par les sources saintes qui renouvellent la vie du monde. Tel le jour qui suit la nuit et l'aube qui vient après le coucher du soleil, ainsi Jésus-Christ apparut à l'horizon de ce monde comme un soleil de vérité. Et quand une nouvelle fois, après avoir oublié les enseignements du Christ et son exemple d'amour envers toute l'humanité, les hommes furent lassés des choses matérielles, une étoile céleste brilla à nouveau en Perse. Une nouvelle illumination apparut, et maintenant une grande lumière se propage à travers toutes les contrées. Les hommes gardent leurs biens pour leur propre jouissance et ne partagent pas suffisamment avec les autres la bonté reçue de Dieu. Le printemps se change donc en hiver d'égoïsme et d'égotisme. Jésus-Christ dit « Vous devez renaître », voir Jean 3.3 et 3.7. Afin que la vie divine puisse jaillir à nouveau en vous. Soyez aimables avec tous ceux qui vous entourent et rendez-vous service mutuellement. Aimez être juste et honnête dans toutes vos affaires. Priez constamment et vivez votre vie de telle sorte que le chagrin ne puisse pas vous toucher. Regardez les gens de votre propre race et ceux des autres races comme des membres d'un seul corps, des fils d'un même père. Soyez connus par votre comportement pour être réellement le peuple de Dieu. Ainsi les guerres et les disputes cesseront et dans le monde se répandra la plus grande paix. » Après que Abdu'l-Baha se fut retiré, Tamaddun-ul-Mulk et M. W. Tudor Paul donnèrent de courtes allocutions dans lesquelles ils firent référence aux martyrs des croyants en Perse. Une mention spéciale fut accordée à l'éminente poétesse Quratul Ayn. Nota, Quratul Ayn, plus connue sous le nom de Tahereh, seule femme parmi les 18 premiers apôtres du Bab, 1819-1850. Elle était admirée pour son érudition religieuse, ses explications savantes et sa magnifique poésie. Elle fut la première à se dévoiler en public. Elle ne cessa jamais de proclamer la grandeur du Bab et fut pour cela martyrisée. Le jour suivant, un dimanche très ensoleillé, Abdu'l-Bahá sortit avec ses amis. Il conduisait le groupe pour une marche dans les collines. Ensuite, il rassembla les serviteurs de la maison, parla de la dignité du travail et les remercia pour leur service, donnant à chacun un cadeau en souvenir de cette visite. Il fit le tour de la pension de famille et la bénit comme centre pour les pèlerins qui viendraient de toutes parts, et dit que ce lieu deviendrait un havre de tranquillité. Durant la matinée du troisième jour, un chanoine de l'église anglicane le rencontra au petit déjeuner. La conversation s'orienta sur la répugnance des riches à partager leurs biens. Abdu'l-Bahá, citant les paroles de Jésus, « Combien sera difficile l'entrée dans le royaume des cieux pour ceux qui ont des richesses ?» Voir Matthieu 19, 23-24, Marc 10, 23-25 et Luc 18, 24-25. Il fit remarquer que c'est seulement quand le vrai chercheur trouve que les attachements matériels le privent de son héritage spirituel qu'il entre avec bonheur sur le chemin de la renonciation. Alors l'homme riche partagera dans la joie ses biens terrestres avec les nécessiteux. Abdu'l-Bahá nota le contraste entre l'hospitalité sans prétention qui s'offrait à lui et les banquets coûteux des riches, qui trop souvent sont assis à leur fête, oublieux des multitudes d'affamés. Il enjoignit ceux qui l'écoutaient de répandre la lumière dans leur propre maison pour enfin illuminer toute la communauté. Abdu'l-Bahá retourna alors à Londres. Le souhait le plus cher de ceux qui avaient eu le privilège de le rencontrer était que ses disciples d'autres contrées sachent combien les habitants de Clifton avaient apprécié sa visite et pris conscience de son pouvoir spirituel et de son amour.